Les orages maléfiques, chapitre 43. Elles furent accueillies à bras ouverts au village. Tous pensaient qu'elles revenaient de l'enfer. Pendant près d'un mois, aucune nouvelle ne leur était parvenue. Les autorités thaïlandaises se préoccupèrent plus du sort des voyageurs occidentaux que de celui des ressortissants des pays voisins. Une fête marqua leur retour, mais la mère et la fille n'eurent pas le cœur aux réjouissances. Elles participèrent au défilé des enfants, puis prétextèrent une grande fatigue afin d'éviter une journée d'amusement. Elles demeurèrent plusieurs semaines dans la maison familiale, où tout le monde était au bon soin pour les miraculés du tsunami. Bo retourna à son ancienne école avec plaisir. Elle savait qu'il s'agissait de sa dernière année. L'an prochain, elle intégrerait le lycée français. Gentil papa lui avait promis qu'elle serait inscrite. Elle possédait un excellent niveau et maîtrisait tout à fait la langue de Molière grâce aux cours qu'il lui avait prodigués. Suong s'ennuyait. Elle trouva du travail dans une agence qui venait de s'ouvrir. Elle fut embauchée comme guide après avoir subi avec succès l'examen l'autorisant à accompagner les touristes. Ce métier était lucratif, ce qui lui permit d'emménager dans un appartement à Hanoï. Sa zone d'activité se situait sur la capitale et ses alentours, ce qui lui permettait d'être avec sa fille tous les soirs. Elles évoquaient souvent le disparu. Leurs souvenirs communs étaient forts. Elles voulaient garder dans leur cœur uniquement les bons moments. Lorsque Bo était endormi, Suong éprouvait plus de difficultés à trouver le sommeil. Elle revoyait ses nuits d'amour dans les bras de l'homme qu'elle avait aimé et pleurait en silence à son bonheur enfui. Les mois s'écoulèrent. De nombreux soupirants tentèrent d'obtenir ses faveurs, mais aucun ne l'intéressait. Elle n'était pas prête à se donner à un autre. Elle se consacrait pleinement à son nouveau job et au trésor de sa vie, Bo. Elle rencontrait fréquemment des visiteurs français qui lui parlaient du pays qu'elle ne connaissait pas. À ce moment-là, elle songeait fort à lui. Parfois, une larme roulait le long de sa joue, qu'elle essuyait, puis continuait ses explications. Suong reçut une lettre d'un cabinet notarial, situé à quelques pâtés de maison de son domicile. L'homme de loi désirait la rencontrer pour une affaire de succession. N'attendant aucun héritage, par courtoisie, elle décida de s'y rendre. Elle fut reçue par un secrétaire, qui la fit patienter dans le couloir, le boss étant occupé. Elle attendait depuis 10 minutes en feuilletant un vieux journal lorsqu'une porte s'ouvrit. Un couple âgé salua dans sa direction. Elle leur répondit d'un signe de tête. Le notaire semblait jeune, sûrement son cadet. Une nouvelle génération prenait les rênes dans la société. Après les présentations d'usage, il lui demanda le nom et le prénom de son enfant, ainsi que sa date de naissance. Il parut satisfait. Les réponses correspondaient à son attente. Il précisa que la convocation concernait sa fille Bo. La fillette étant mineure, sa mère avait autorité pour la représenter et signer tout acte la concernant. Elle comprenait parfaitement ce qu'il lui exposait, mais elle trouvait qu'il tournait autour du sujet. Il précisa qu'il avait mandat d'un collègue français qui assurait la succession du père adoptif de Bo. Cette dernière héritait, à part égale avec son demi-frère, de tous les biens ainsi que d'une assurance vie contractée à son profit. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Son compagnon lui avait caché qu'il détenait du capital placé en France et elle n'avait jamais entendu parler de l'assurance. Dans quelques semaines, elle aurait en sa possession une somme représentant environ 400 000 euros. Elle était désintéressée. Elle l'avait choisie par amour et n'avait pas regardé ses droits. L'homme de loi lui montra une photocopie du contrat contracté en Thaïlande auprès d'une compagnie suisse. Il avait désigné Bo comme légataire principal et, à défaut, Suong. Il voulait couvrir l'une ou l'autre. Sa volonté était claire. Heureuse, elle prit le chemin de son domicile en bénissant le ciel pour sa fille. Gentil papa méritait encore plus cette appellation. Elle décida de ne pas en parler tout de suite à son amour. Elle le ferait lorsque les fonds seraient disponibles à l'étude. Elle préférait être prudente, craignant la réaction du fils. Il risquait de se sentir spolié et pourrait intenter un procès pour faire invalider l'adoption et le contrat d'assurance. Elle se repassa le film dans sa tête, croyant évoluer dans une autre histoire. Elle allait se réveiller pauvre comme avant. Elle dut se rendre à l'évidence, tout était réel. Et pour s'en assurer, elle passa à nouveau devant l'immeuble, il y avait bien un notaire. En marchant, elle réfléchit aux meilleurs moyens de sauvegarder, voire développer le capital de sa fille. Elle savait que Beau démarrerait bien dans la vie, et il lui appartenait de gérer au mieux ses intérêts. Elle pensa que l'immobilier serait la meilleure solution. Avec l'ouverture du pays aux investisseurs, le placement dans la pierre se révélait judicieux. Elle garda le secret. Rien ne transpira nulle part. C'était le meilleur moyen d'éloigner les parasites venant de toutes parts. Gentil papa lui avait raconté les revers de fortune de ces gagnants du loto qui flambaient tout leur argent, conseillés par des sangsues assoiffés d'argent. Elle désirait éviter ça, à sa fille et à elle aussi. Beau eut la chance de bénéficier des mesures afférentes aux ayants droit des victimes du tsunami. Elle eut aussi un petit coup de pouce du destin en la personne du notaire français. Ce dernier fit preuve de beaucoup de zèle pour identifier les contrats éventuels d'assurance vie contractés à des milliers de kilomètres de son étude de province. Pendant plusieurs mois, il n'eut de cesse de contacter les compagnies en possession des caractéristiques et de la désignation du bénéficiaire. Il contacta les différents consulats thaïlandais et vietnamiens, et opérant par déduction, il trouva que les prénoms de Bo et Suong étaient fréquents au Vietnam. Il ne lui restait qu'à attendre les réponses des autorités consulaires. À Hanoï, un employé se souvenait avoir traité un dossier d'adoption l'année précédente. La boucle venait d'être bouclée. Suong rêve. Elle sait que quelque part, un ange veille sur deux perles jaunes. Il doit regarder avec satisfaction la tournure des événements. Il a reçu l'amour au moment où les orages maléfiques l'entraînaient au fond du gouffre. Une fée lui a tendu la main. Il a saisi son bras, ses lèvres, et s'est abreuvé à la source du bonheur. Elle a apaisé ses douleurs, elle a calmé ses fièvres et lui a prodigué mille caresses. Elle ne sait pas qu'il a rejoint deux fillettes vêtues de blanc, dont une porte une tache de sang dans le cou. Il s'est assis au pied de sa douce et tendre compagne, lui récitant les vers extraits du stupa de Borobudur. Elle lui prend la main et sourit de toutes ses dents blanches, puis l'entraîne un peu plus loin à la rencontre d'un jeune couple qui tient ses deux angelots dans ses bras. Suong se réveilla en retard. D'ordinaire, cela l'aurait mise de mauvaise humeur. Mais ce matin-là, sa fille et elle rirent de bon cœur de cette panne d'oreiller. Beau présenta un mot d'excuse. Elle ne fut pas réprimandée, car c'était une excellente élève. Quant à sa mère, elle avoua au groupe de Québécois la raison de leur attente. Ils acceptèrent de bon gré ce contretemps et en profitèrent pour lancer quelques plaisanteries grivoises à son encontre.